BFM Business, le grand journal de l'écho, Thomas Asportas.
Mon premier invité ce soir dans le grand journal de l'écho, c'est le député européen Renew Europe, Sandro Gozzi. Bonsoir Sandro Gozzi. Est-ce que vous êtes avec nous? Est-ce que vous nous entendez, Sandro Gozzi?
Oui.
Bonsoir, merci. Merci d'être avec nous ce soir dans le Grand Journal. On a évidemment beaucoup de questions à vous poser sur l'Europe et sur la crise ukrainienne. Première question, Sandro Gozzi. Le 4 mai, la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a proposé aux États membres un embargo sur le pétrole russe. Aujourd'hui, on est le 26 mai, cet embargo n'a toujours pas été adopté, essentiellement du fait de l'opposition de la Hongrie à cet embargo. Est-ce que pour vous, l'Europe est arrivée au bout de ce qu'elle pouvait faire en termes de sanctions contre la Russie ?
Non, je ne crois pas. Je ne crois pas qu'on est au bout de ce qu'on peut faire. Et d'ailleurs, je suis encore confiant qu'un accord puisse être trouvé. Je sais que l'Élysée, le président du Conseil européen, Charles Michel, le gouvernement français travaillent là-dessus. Mais il est clair que c'est une Europe qui, dans les moments difficiles, montre ses faiblesses, montre ses sources de blocage. Et il est clair, du moment où on peut adopter des nouvelles sanctions contre la Russie seulement à l'unanimité, il est clair qu'on est exposé au droit de veto de tel autre pays, au chantage de tel autre pays, et c'est le cas avec la Hongrie aujourd'hui, raison pour laquelle nous devons nous libérer du veto.
C'est fort le mot que vous employez, Sandro Gozzi. Vous dites que la Hongrie fait du chantage. Je rappelle que 65% de leur gaz vient de la Russie. Donc oui, c'est quand même pas si évident de s'en passer.
Je rappelle aussi que la Russie gagne en hydrocarbures chaque jour 800 millions d'euros et que c'est grâce à la vente des hydrocarbures que Poutine est en train de financer sa guerre contre l'Ukraine. Donc, il faut travailler. La Commission européenne a fait des propositions à la Hongrie, des soutiens financiers, 2 milliards d'euros, de reporter d'un an les moments où l'embargo plein devrait avoir lieu, mais il me semble que la Hongrie essaye d'obtenir des avantages sur d'autres dossiers. Donc, je crois que les négociations doivent continuer, mais c'est clair que cette fois-ci, c'est la Hongrie, demain, c'est notre pays. Du moment où on doit voter à l'unanimité, on est toujours exposé au veto, au blocage de tel autre pays. Mmh. Et ceci est la principale cause d'inefficacité de l'Europe dans ce moment-là.
Et effectivement, il y a quelques jours, c'était en clôture de la conférence sur l'avenir de l'Europe, c'est le 9 mai, jour par ailleurs de l'Europe, Emmanuel Macron et Ursula von der Leyen proposaient justement une révision des traités et ne pas avoir systématiquement à passer sur l'unanimité pour prendre des décisions structurantes. L'Élysée qui nous disait justement il y a quelques heures, croire en les chances d'un accord sur un embargo sur le pétrole russe d'ici au Conseil européen extraordinaire de lundi et mardi. Viktor Orban, donc le Hongrois, juge que c'est très improbable. Vous y croyez ou vous pensez qu'on n'y sera pas d'ici à lundi ou mardi?
Moi, je crois qu'il y a encore des efforts qui doivent et peuvent être faits. Et comme vous avez rappelé, l'Élysée est en train de travailler là-dessus. Il faut tout faire pour arriver à un accord d'ici au 31 mai. Et parce qu'il est clair que nous devons absolument passer à une nouvelle phase des sanctions, dans ces cas-là des pétroles, contre la Russie. C'est fondamental, comme c'est fondamental en même temps d'augmenter les aides financières à l'Ukraine, aides financières et militaires à l'Ukraine, et aussi de travailler, c'est la proposition que nous avons faite en tant que Renaissance au niveau européen, nous devons travailler pour créer un fonds de mutualisation des coûts économiques et énergétiques, et évidemment ces conflits fait peser sur les ménages français européens et sur les entreprises français européennes, notamment pour les coûts de l'énergie. Donc, nous devons travailler absolument sur ces trois pistes. Et il est clair, la première passe par un durcissement des sanctions. Et donc, je suis confiant que les efforts vont continuer et ils pourraient aboutir d'ici au sommet extraordinaire de la fin de ces mois.
Vous dites que c'est absolument fondamental, je reprends vos mots, hein, absolument fondamental de passer à une nouvelle étape des sanctions. Parce que c'est un aveu d'échec, d'impuissance des sanctions qui ont été prises jusqu'à présent, Sandro Gozzi, contre la Russie.
Non.
On a aujourd'hui la Banque Centrale qui baisse encore son taux directeur, et on a le rouble qui n'a jamais été aussi fort, enfin en tout cas depuis 4 ou 5 ans face au dollar. Ça ne marche pas, l'économie russe, elle n'est pas en train de s'effondrer, Sandro Gozzi.
Là. Alors, tout d'abord, on savait bien que les sanctions devaient accompagner les efforts diplomatiques ou la prolongation de la guerre. Donc, dès le départ, on savait qu'il y avait toute une série d'étapes de sanctions. Et maintenant, malheureusement, la diplomatie peine à revenir parce que l'agression russe continue. Vous avez même dans vos chaînes rappelé comment Poutine est en train d'intensifier ces attaques dans les Donbass. Et donc, il est clair que nous devons passer à une nouvelle phase de sanctions, ce qui était envisagé, pas souhaité, mais envisagé dès le départ. Et je crois qu'aussi, il y a des propositions importantes que, par exemple, la Commission européenne a faites, de considérer la violation des sanctions comme un crime européen et d'accélérer la saisine des biens des oligarques russes et des entreprises qui sont en train d'être, disons, en train de violer les normes sur l'embargo. On a déjà saisi 10 milliards d'euros de biens. Donc, il faut absolument poursuivre dans cette direction.
Alors, Sandro Gozi, on parlait il y a un instant de la Hongrie. Votre pays, l'Italie aussi, dépend beaucoup des énergies fossiles russes. On voit bien que depuis le début de la crise, le président du Conseil, Mario Draghi, fait tout pour couper les ponts et se passer du gaz russe et trouver de nouveaux fournisseurs, notamment en Afrique. Aujourd'hui, c'était le Premier ministre algérien Tebboune qui était reçu par le président italien Mattarella. Est-ce que Mario Draghi est l'un des chefs d'État européens les plus offensifs face à Vladimir Poutine?
Mais il me semble que oui, il me semble que Mario Draghi soit le meilleur allié d'Emmanuel Macron. Il me semble que les soins dans cette phase aussi sur ce qui concerne l'Ukraine et la Russie, je crois que Mario Draghi est en train de tourner la page en Italie. L'Italie a commis des erreurs dans le passé, de concentrer la relation énergétique, notamment avec la Russie. Ceci a créé une dépendance, une vulnérabilité de l'Italie face aux importations du gaz russe. Et Mario Draghi a tourné la page, est en train activement et réellement de diversifier les approvisionnements énergétiques. Les dialogues avec l'Algérie, comme avec les États-Unis, comme avec le Canada, ce sont tous des pistes très importantes et je crois qu'il a les raisons. Il a du courage, parce que vous savez qu'en Italie, il y a un débat très ouvert et malheureusement, c'est un pays dans lequel la désinformation russe trouve place dans les talk shows, dans les débats télévisés, dans la presse. Et donc, je crois que d'autant plus, il faut apprécier le courage et la détermination de Mario Draghi.
Intéressant ce que vous nous dites, effectivement, on n'est pas forcément conscient de cette désinformation dans votre pays. Vous dites du courage. Oui, pardon.
C'est le seul pays. Si Poutine est en train de gagner quelque chose, il est en train de gagner avec la bataille de la désinformation en Italie. Je crois que c'est inquiétant ce qui se passe. Et d'autant plus, on peut apprécier le courage et la détermination de Mario Draghi. Je répète parce que ce sont des choses que j'ai déjà dit en Italie. Et je crois qu'il faudrait quand même, au niveau de l'information, rééquilibrer un peu parce qu'on entend trop les raisons de Moscou, et ceci, je trouve, c'est qui est inacceptable.
Alors, du courage face aux médias, du courage pour diversifier, du courage aussi dans la sobriété. Mario Draghi impose aux Italiens de baisser un peu le thermostat, enfin tout un tas de mesures de la vie quotidienne pour moins consommer, moins dépendre du gaz russe, moins de chauffage, moins de climatisation cet été. Est-ce que ça fait jaser? Est-ce que ça fait râler les Italiens? Parce que ça peut paraître anecdotique, mais ça ferait économiser 14% de vos achats de gaz russe, ces petites mesures du quotidien.
Il a raison sur la prise de sobriété, comme il a raison, le gouvernement italien, aller dans une imposition spéciale pour les grands profits que les entreprises font dans le domaine énergétique. Et ce qu'il a dit Mario Draghi, d'après moi, est très important parce que malheureusement, la tension, les conflits pourraient durer. Et nous ne devons pas nous trouver dans un moment dans lequel on doit choisir entre la climatisation ou le chauffage été ou hiver et la poursuite de notre stratégie de soutien à la résistance ukrainienne. Donc d'un côté, il est clair qu'il faut travailler sur la diversification des provisions énergétiques, de l'autre côté sur la sobriété, mais aussi j'insiste sur des nouvelles initiatives de solidarité économique énergétique européenne, parce que nous ne pouvons pas choisir entre les soutiens à notre économie, la gestion de ces passages difficiles du point de vue énergétique et les soutiens au peuple ukrainien et au gouvernement ukrainien.
Alors, Sandro Gozzi, donc Mario Draghi très actif sur le plan de la crise énergétique vis-à-vis de la Russie, mais Mario Draghi, en revanche, a l'air de caler sur le plan de relance européen et sa mise en application en Italie. C'est pas moi qui le dis, c'est son prédécesseur, Paolo Gentiloni, qui est aujourd'hui commissaire européen à l'économie. Il a dit en début de semaine que le plan de relance italien n'avance pas assez vite, les réformes promises n'ont pas lieu, et du coup l'Italie risque de ne pas toucher l'argent prévu, alors que c'est le pays qui devait toucher le plus d'argent dans ce plan de relance. Qu'est-ce qui se passe en Italie, Sandro Gozzi?
Tout d'abord, il est clair que ce gouvernement d'unité nationale, du moment où on doit trouver un accord sur les passages décisifs, il est clair que, disons, les débats sont très intenses, parce que nous devons rappeler qu'autour de Draghi, il y a quand même des forces qui ont toujours été opposées. D'un côté, vous avez les partis démocrates, au centre, vous avez des mouvements comme celui de Matteo Renzi, et à la droite, à l'extrême droite, vous avez la Lega. Ce sont des forces qui ont toujours été en compétition, c'est la première fois qu'ils coopèrent entre elles. Mais le leadership de Mario Draghi est en train de s'affirmer. Aujourd'hui même, quand vous m'interrogez, en Italie, on a adopté cette réforme sur la concurrence pour mieux ouvrir les marchés, pour répondre à toute une série d'engagements et de demandes qui venaient de l'Union européenne. Donc je crois que sans doute le débat est difficile, mais et l'Italie est en train d'aller dans la bonne direction. Sans doute Mario Draghi a un travail extrêmement compliqué. Mais c'est pour cela qu'une personnalité exceptionnelle comme celle de Mario Draghi a été appelée à gérer cette phase des passages, disons, des gestions, des préparations et des gestions du plan de relance en Italie.
Oui, d'ailleurs, c'est pour ça qu'il a été choisi. C'est pour ça qu'on l'a mis là. C'est qu'on a dit, s'il y a un seul homme en Italie qui peut réussir cette mission du plan de relance, c'est Mario Draghi. C'est pour ça que Giuseppe Conte a été écarté. Pour vous, vous ne doutez pas de son succès?
Je ne doute pas de son succès et je ne doute pas de la nécessité de remplacer un gouvernement inefficace et vraiment très négatif pour l'Italie comme celui de Giuseppe Conte avec Mario Draghi.
Bon.
Je n'ai aucun doute là-dessus. Je vous répète, c'est difficile, c'est un système parlementaire, ce sont des réformes nécessaires mais parfois impopulaires pour tel ou tel autre groupe, pour tel ou tel autre groupe d'intérêt ou corporation. Et donc, il y a des passages dans lesquels la discussion est animée, comme pour la réforme de la concurrence, mais finalement, ça a été adopté. Il faut que l'Italie... Pour l'Italie, c'est une occasion historique. L'Italie n'a pas le droit à l'erreur avec le plan de relance. Gentiloni l'a rappelé, il a eu raison. Et Mario Draghi le sait très bien.
Et je le rappelle, des enjeux historiques, des montants historiques, 40 milliards d'euros rien que pour cette année et 200 milliards, un peu plus même de 200 milliards, dans le cadre des 750 milliards du plan européen de relance Next Generation EU. Effectivement, Mario Draghi a intérêt à pas se louper. Merci beaucoup Sandro Gozzi d'avoir été mon invité ce soir dans le grand journal de l'écho. Je rappelle que vous êtes député européen Renew Europe au Parlement européen à Bruxelles. Merci beaucoup et votre interview est à retrouver d'ores et déjà en ligne sur nos réseaux sociaux et en podcast. Bientôt 18h30. Sur BFM Business, dans un instant, le journal de Claire Sergent. Et puis on part à Cannes, sur la croisette, retrouver le directeur du marché du film, Jérôme Payard. A tout de suite.
BFM Business, le grand journal de l'écho, l'alerte, le chiffre.
Emmanuel, donc je le disais, peur ou pas d'une récession économique mondiale, vous nous expliquez ce soir que les deux locomotives de l'économie sont en perte de vitesse.
Oui, mais est-ce que c'est de ça dont il faut vraiment s'inquiéter? Alors effectivement, quand on regarde la situation économique aux États-Unis, on a eu aujourd'hui la révision à la baisse du PIB du premier trimestre, 1,5% de baisse. Alors il faut rappeler que les États-Unis, ils annualisent les rythmes trimestriels, c'est-à-dire qu'en gros, ils multiplient par 4 pour avoir une idée de ce que serait le rythme annuel pour le trimestre. Si on ramène ça à des normes françaises, en gros, c'est comme si le PIB américain avait baissé de 0,4% au premier trimestre. Donc oui, l'investissement déçoit. On a des inquiétudes, notamment du marché de l'immobilier, moins 30% sur les transactions en 6 mois. Ouais. C'est spectaculaire. On a aussi des mauvaises nouvelles en provenance de Chine. Le Premier ministre lui-même, Li Keqiang, a dressé un constat assez alarmiste de la situation économique avec les restrictions anti-Covid. On a des indicateurs économiques sur l'emploi, la production industrielle, la production d'électricité qui sont effectivement au plus bas depuis 2 ans, un chômage proche du record absolu. Et alors, l'Europe, au milieu de tout ça, résiste, mais avec des indicateurs du climat des affaires qui tendent à montrer un certain plafonnement. Alors, pour autant, est-ce qu'il faut s'inquiéter d'une récession ? La réalité, c'est quand même que on n'a jamais vu se déclencher une récession quand toutes les contraintes étaient du côté de l'offre et qu'il n'y avait pas de faiblesse véritablement de la demande. Or là, toutes les contraintes sont encore de l'offre. Contrainte sur le manque de main-d'œuvre, contrainte sur les difficultés d'approvisionnement, contrainte sur les matières premières. On n'a jamais vu se déclencher une récession avec des taux de chômage aussi bas, et ils sont extrêmement bas dans tous les grands pays développés, et on n'a jamais vu se déclencher de récession. Alors même si on est dans un début de hausse des taux d'intérêt, on n'a jamais vu se déclencher des récessions avec des politiques économiques aussi accommodantes. Je vous rappelle que si on était dans l'ancien monde et si les banques centrales utilisaient leur vieux logiciel, on serait sur des taux d'intérêt qui devraient plutôt être à 8% aux États-Unis et à 3,5% en Europe.
Okay.
Donc, on n'y est pas. Donc, il me semble que les craintes, en gros, pour le cœur, pour le centre de l'économie mondiale, sont plutôt exagérées. En revanche, il faut avoir des craintes pour, au contraire, la périphérie. Et c'est pour ça que moi, je crains que le danger vienne plutôt aujourd'hui de la périphérie de l'économie mondiale, de tous ces pays qui ne se sont pas vraiment remis de la crise sanitaire, qui souffrent de la hausse des matières premières, qui sont dépendants aux produits alimentaires venant de Russie et d'Ukraine. Songez que la production de l'Ukraine, c'est potentiellement quand même de quoi nourrir 400 millions de personnes. Donc, moi, il me semble que le danger, c'est plutôt aujourd'hui dans tous les pays périphériques vulnérables, plutôt que
les pays émergents.
Ouais, voilà, notamment les pays pauvres, certains pays africains, etc. Et que aujourd'hui, vraiment, dans les pays comme les États-Unis ou l'Europe. Donc, attention. Oui, il y a des signes de ralentissement. Franchement, une récession, on voit pas ce qui pourrait vraiment aujourd'hui la déclencher. Même aux États-Unis, quand vous regardez les premiers chiffres annonciateurs du deuxième trimestre, on est plutôt sur un rebond de la croissance qui serait autour de 2-3%. On sait très bien que les chiffres du premier trimestre aux États-Unis, ils sont toujours un petit peu sujets à des incertitudes de statistiques. Donc, ne paniquons pas pour nos grands pays industrialisés. Inquiétons-nous en revanche pour les pays plus périphériques et plus pauvres.
Merci beaucoup Emmanuel. Alerte, le chiffre du jour et évidemment de l'année. Hein, c'est le sujet macro numéro 1 qu'on va suivre cette année ou pas. Est-ce que l'économie mondiale va basculer en récession ? Dans un instant, on part à Cannes, on va changer un peu les idées, on va parler de cinéma, ça fait du bien. Avec le directeur délégué du marché du film, Jérôme Payard. À tout de suite.
BFM Business, le grand journal de l'écho, Thomas Asportas.
La suite du grand journal de l'écho, on file à Cannes retrouver le directeur délégué du marché du film du festival. Bonsoir Jérôme Payard.
Bonsoir.
Merci d'être avec nous ce soir dans le grand journal. Le festival de Cannes s'achève samedi, mais vous, le marché du film que vous dirigez s'est achevé hier soir. Quel premier bilan vous en faites ? Est-ce que l'activité a été bonne ?
Bah écoutez, excellent, vraiment un enthousiasme formidable de tous les professionnels qui avaient absolument besoin et envie de se retrouver. On a retrouvé tout à fait notre niveau de 2019, qui était déjà une année record, 12 500 participants, du monde pratiquement entier, manquait quelques Chinois évidemment, mais voilà, c'est un enthousiasme formidable, et puis beaucoup de business qui s'est fait sur la croisette.
Alors justement, donc 12 500 participants, vous dites vous avez retrouvé les niveaux de 2019, donc d'avant la pandémie. Ça veut dire quoi en termes de business, en termes de centaines de millions d'euros ? Le marché du film, habituellement, c'est combien de deals par an ? Enfin, combien de millions d'euros ?
Alors, on ne sait pas exactement, puisque c'est vraiment le secret des affaires. On estime que c'est entre 500 et 800 millions de dollars ou d'euros, c'est à peu près la même chose maintenant, qui sont réalisés grâce à ce marché. Et sans doute que c'est une édition, en tout cas, qui retrouvera les niveaux des années précédentes.
Donc vous avez fait mieux que l'an dernier. L'an dernier, je le rappelle, le festival s'est tenu normalement, enfin si ce n'est que c'était au mois de juillet. Mais vous avez eu plus d'activités cette année que l'an dernier.
Oui, beaucoup plus, beaucoup plus. On a eu deux années, 2020 qui était une année uniquement en ligne avec un marché, notamment de la distribution, extrêmement handicapé. L'année dernière, c'était vraiment une période un peu de récupération. Cette année, même si la distribution en salle reste compliquée et que les distributeurs sont prudents dans leurs acquisitions. Ils ont à peu près maintenant vidé leurs étagères, les films sont sortis et ils cherchent tous des films. On sait, enfin, notamment sur les projets, parce que vous savez qu'à Cannes, il y a à la fois des films terminés, mais aussi des projets. Il y a de très gros projets avec Tom Hanks, avec Robert De Niro qui se sont arrachés.
Très intéressant. Tom Hanks, qui était l'une des vedettes, hein, hier soir, c'était le biopic sur Elvis Presley, auquel il participe. Donc, vous dites en conclusion que le marché du film a tourné la page de la pandémie.
Alors, il ne l'a pas totalement tourné, puisqu'encore une fois, les salles n'ont pas retrouvé leur activité normale. Ouais. Mais enfin, effectivement, il y a un optimisme qui revient un peu dans les allées du marché.
Bon, l'optimisme est de retour. On va évidemment revenir sur la situation en salle qui est très compliquée. En France, on a perdu un quart de la fréquentation. Je vais vous demander évidemment ce que ça vous inspire à vous et aux professionnels présents à Cannes. Toujours sur ce marché du film que vous dirigez, Jérôme Paillard, est-ce que, on le sait, les plateformes sont très présentes depuis quelques années. Cette année, elles étaient encore plus à l'offensive. Je pose la question, puisqu'il y a quelques semaines, c'était en mars, hein, de mémoire, Apple a enfin, Apple, une plateforme de streaming américaine, en l'occurrence Apple, a enfin gagné l'Oscar du meilleur film, avec un film d'ailleurs qu'il n'a pas produit mais acheté à catalogue pour un prix assez modeste. Est-ce que du coup, les plateformes américaines étaient encore plus à l'affût pour trouver les pépites qui vont encore les faire grandir et gagner des abonnés ?
Écoutez, en tout cas, on sait qu'ils ont fait des acquisitions. La différence par rapport aux années précédentes, c'est qu'il y a maintenant une vraie compétition entre les différentes plateformes. Netflix n'est plus tout seul en tête. Amazon, Disney, HBO, Apple, vous le disiez, sont également très présents et attentifs aux films qui sont présentés. Mais les distributeurs aussi sont là et n'ont pas envie de laisser tous les films partir directement vers les plateformes. Donc, il y a quand même une vraie volonté d'essayer de garder des droits pour que les films sortent en salle.
Et alors, du coup, cette compétition exacerbée, puisque comme vous dites, Netflix n'est plus tout seul, est-ce que ça fait monter les prix ?
J'ai pas l'impression. J'ai l'impression que les prix qui étaient demandés étaient déjà très hauts. Et du coup, il y a peut-être un peu un réajustement des prix. On le saura, j'espère. On verra ce qu'on aura comme information dans les jours qui viennent.
Donc vos plateformes, et alors quand vous dites que les plateformes sont très présentes, concrètement ça représente combien de personnes ? Il y a combien d'acheteurs de ces plateformes américaines, comme vous dites HBO, Disney, Netflix, Apple ? Ça représente un contingent de combien d'Américains dans les coulisses du marché ?
Alors, Américains, on en a beaucoup, on a presque 2000 Américains, après ils ne sont pas tous évidemment des plateformes, on doit avoir un peu plus d'une centaine d'acheteurs des plateformes.
Ah quand même ?
Ce qui est évidemment important, c'est moins que les distributeurs. Mais leur pouvoir d'achat, si je puis dire, est élevé.
Oui, 100 personnes, effectivement, avec des chèques quasiment en blanc qui peuvent dégainer, même si Netflix, on le voit, là, commence à réduire la voilure après la dernière publication de ses résultats au premier trimestre. Est-ce que, on le sait, les plateformes américaines sont toujours interdites au Festival de Cannes, en tout cas, pour concourir en compétition officielle, mais est-ce qu'en coulisses, les relations se sont apaisées, se sont détendues entre ces plateformes américaines, ces gens du streaming et le reste de la profession ?
Non, les relations avec la profession et avec le marché en particulier sont excellentes. Effectivement, il y a ce sujet de tension avec le festival. On verra dans les années qui viennent comment il sera.
Oui, mais vous, donc en gros, l'ancien monde, entre guillemets, j'aime pas la formule, mais enfin voilà, les grandes majors hollywoodiennes, les distributeurs indépendants et ces plateformes, tout ce beau monde maintenant arrive peu ou prou à cohabiter et à faire du business, à se partager le gâteau tous ensemble.
Oui, non, absolument. Encore une fois, dans le marché, les plateformes sont des acheteurs à part entière. Ils l'ont toujours été et c'est totalement décorrélé de leur réticence à venir au festival sans pouvoir être en compétition.
Alors, donc ces plateformes, cette année encore interdites à Cannes, c'est une exception française hein, liée à notre chronologie des médias et à l'opposition des salles de cinéma. Vous pensez que tôt ou tard, le sens de l'histoire, c'est que les films des plateformes soient en compétition, comme dans d'autres festivals qui sont vos concurrents ?
Écoutez, c'est un sujet, et c'est pas un secret que c'est un sujet qui est débattu au sein du conseil d'administration. Donc, voyons comment il évoluera l'année prochaine. Mais effectivement, on remarque que la plupart des grands festivals dans le monde, aujourd'hui, font quand même une place aux plateformes. Et les plateformes, l'offre de cinéma des plateformes, pour un certain nombre de ces films, le mérite tout à fait.
Bon, c'est important ce que vous dites, et je précise par ailleurs, ça va peut-être faire bouger les lignes, que Pierre Lescure tire sa révérence cette année, que l'année prochaine, sa successeur, Iris Knobloch, est l'ancienne présidente, enfin une des anciennes dirigeantes de Warner, hein, qui est à la tête notamment de la plateforme de streaming HBO. Donc ça va peut-être faire bouger les lignes, ce genre de mouvement. Alors on en parlait, face aux plateformes de streaming, il y a les salles de cinéma, je le disais, elles ont perdu en France un quart de leur fréquentation, depuis leur réouverture le 19 mai 2021. Est-ce que ça préoccupe, ça inquiète les professionnels présents à Cannes ?
Bien sûr, il y a vraiment une grande attention qui est portée à l'évolution et à ce retour qu'on espère dans les salles. Les chiffres que vous donnez ne sont pas propres à la France, hein, c'est une situation à peu près mondiale. Il y a un certain nombre de tentatives d'explication à ce retour assez lent d'une partie des spectateurs vers les salles. Je pense qu'il y a vraiment une volonté à la fois des distributeurs et des exploitants de tout faire pour redonner envie aux gens de venir en salle. C'est à la fois l'offre, évidemment, les films qui sont proposés, la manière d'animer les salles. Alors oui, il y a un petit peu d'inquiétude, ce qui fait que les distributeurs aujourd'hui font attention dans leurs acquisitions à prendre des films dont ils sont sûrs qu'ils peuvent vraiment rester dans les salles. Et donc, il y a un petit peu une tendance pour les distributeurs à se focaliser sur des valeurs sûres, sur des films de budget significatif avec des talents, des acteurs ou des réalisateurs connus. C'est plus difficile pour des premiers films, pour des films un petit peu plus pointus, des films un petit peu d'auteur, sur des budgets moindres. Et là, on sent qu'il y a un peu de frilosité des distributeurs qui ont déjà été fragilisés, évidemment, par les deux années qu'on a connues et qui ne veulent pas se retrouver avec un film qui n'arriverait pas à trouver sa place dans les salles.
Et alors, pourquoi, Jérôme Payard, les gens ne sont pas revenus dans les salles ? Qu'est-ce qu'on dit à Cannes ? Pourquoi est-ce que les salles se sont un peu vidées ?
Alors, on sait pourquoi elles se sont vidées.
Pourquoi pourquoi le public n'est pas revenu comme avant ?
Eh bien, il y a plusieurs explications. Il peut y avoir encore pour certains, et on voit que c'est surtout une tranche d'âge de gens plutôt un peu plus âgés qui ont du mal à revenir. Il peut y avoir encore une crainte liée au Covid. Il y a aussi un changement d'habitude. Il y a beaucoup de gens, notamment dans cette tranche d'âge, qui ont découvert les plateformes, qui n'avaient pas d'abonnement, qui savaient peut-être pas très bien comment s'y connecter. Ces gens-là ont changé leurs habitudes. Ils se sont aperçus que finalement, de chez eux, ils pouvaient aussi voir des contenus intéressants, pas que des films d'ailleurs. Et maintenant, il faut arriver à les reséduire, à les faire revenir, aller voir des offres de films nouveaux. C'est tout, encore une fois, tout ce travail qui est lié aussi à la qualité de l'offre qui va être proposée par les distributeurs dans les mois qui viennent.
Situation compliquée. Jérôme Payard, bon, évidemment, on parle beaucoup de la salle de cinéma, elle est centrale et on espère qu'elle va le rester. Il y a quand même aussi toute une série d'innovations qui bouleversent l'économie en général et peut-être aussi, c'est la question que je vous pose, l'industrie du cinéma, les NFT, les crypto-monnaies, la blockchain, ce qu'on appelle le web 3.0. Est-ce que ça, c'est une réalité dans l'industrie du cinéma ? Est-ce qu'il y avait des stands dans le marché du film que vous dirigez liés au web 3.0 ? Est-ce que le cinéma s'y met ?
Absolument. Alors, les crypto-monnaies, ça fait un moment qu'on les trouve, peut-être pas tellement en Europe, mais par exemple beaucoup en Afrique, où elles sont utilisées en fait pour la distribution du streaming, avec la possibilité pour les gens de payer en crypto-monnaie. Les blockchains sont utilisées de plus en plus, par exemple, pour dater de façon certaine des contrats de cinéma. Donc, c'est vraiment extrêmement technique. Les NFT sont vraiment en réflexion. Il y a pas mal de case studies sur du financement de films à travers des NFT. On parle par exemple beaucoup aussi au marché de production virtuelle, la manière d'intégrer dans une image de film réel, de fiction, des éléments virtuels, des paysages virtuels, des acteurs virtuels. Tout ça sont aujourd'hui ou de la réalité ou des choses qui le seront dans les prochains mois.
Très intéressant et évidemment on va suivre ça de très près. Toute dernière question, Jérôme Payard, parce qu'il nous reste déjà plus qu'une minute. Je le disais, Pierre Lescure s'en va. C'est votre cas aussi. C'est le dernier marché du film que vous dirigez. Vous passez à la main à la fin de l'année. Quel bilan vous tirez de votre mandat et puis surtout du Festival de Cannes. Est-ce que pour vous Cannes reste incontournable dans le paysage cinématographique mondial au milieu, on le dit, d'autres festivals et aussi des jeux américains du streaming?
Bah écoutez, j'ai eu la chance avec toute mon équipe de faire du marché du film depuis 27 ans le premier marché au monde totalement incontesté, ce qui contribue évidemment à faire du Festival de Cannes dans son ensemble le plus gros événement et le plus important pour le cinéma. Et puis voilà, c'est un événement qui va continuer à garder son leadership. Il doit sans doute évoluer puisque l'industrie évolue énormément. Mon successeur vient beaucoup plus d'ailleurs de l'innovation, des startups de ce monde-là que du monde du cinéma, parce que je pense que c'est la direction que le marché du film doit prendre dans les prochaines années.
Ben, ce sera le mot de la fin. Je vous remercie, Jérôme Payard, d'avoir été mon invité ce soir dans le grand journal de l'écho. Je vous souhaite évidemment bon vent et puis une bonne fin de festival. On verra qui décrochera la Palme d'Or samedi sur la Croisette. Merci beaucoup. Et je rappelle que votre interview, bien sûr, est à retrouver en ligne sur notre site, sur les réseaux sociaux et en podcast. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous écouter en podcast et on vous en remercie. Bientôt 19h sur BFM Business. Dans un instant, le journal de Faiza Younsi et la suite du grand journal. À tout de suite.
BFM Business, le grand journal de l'écho, Thomas Asportas.
La suite du grand journal de l'écho et nous sommes en ligne, en visio avec quelqu'un qu'on connaît bien sur BFM Business, c'est Thibault Langsade. Bonsoir Thibault Langsade.
Bonsoir.
Merci d'être avec nous. Bon, on ne vous présente plus évidemment sur BFM Business, ancien vice-président du MEDEF, PDG de votre entreprise, Luminens, qui avant s'appelait, c'était le groupe Jouve. Et si vous êtes avec nous ce soir, c'est parce que vous êtes l'un des monsieur pouvoir d'achat du gouvernement. Vous avez été chargé par Bercy de développer l'intéressement et la participation dans les entreprises, parce que ça décolle pas, vous allez nous expliquer pourquoi. Et puis c'est vous aussi qui avez eu l'idée du dividende salarié qu'Emmanuel Macron a repris dans sa campagne et qu'il a promis de mettre en œuvre dans les toutes prochaines semaine. Thibault Langsade, avant de revenir sur vos propositions, je voulais d'abord revenir sur ce sondage Elabe paru mardi pour BFM TV qui dit que 71% des Français ne font pas confiance au gouvernement pour améliorer leur pouvoir d'achat, malgré le projet de loi pouvoir d'achat qui arrive dans quelques semaines, au mois de juin, et malgré les 26 milliards dépensés depuis l'automne dernier, notamment face à l'explosion des prix de l'énergie. Comment est-ce que vous expliquez que tous ces milliards-là ne rassurent pas les Français ?
Bah, ce que je veux dire, c'est que les Français sont très égaux en question de pouvoir d'achat, mais une partie des réponses, le gouvernement français ne les a pas, parce que ça tient compte d'une dimension internationale, d'une crise géopolitique, on voit qu'on a une crise sur les matières premières, et donc on comprend bien que cette crise est mondialisée, en tout cas cette crise du...
Thibault Langsade,
Vous m'entendez ?
Oui, on vous écoute.
Je veux dire, on voit bien que cette crise est mondialisée, par conséquent, la crise énergétique, la crise géopolitique, la tension sur les matières premières, l'État a une capacité de manœuvre qui n'est pas totale. Donc, les Français sont inquiets. Et puis, l'autre point, c'est qu'une partie, on va dire, de cette question de pouvoir d'achat réside dans les entreprises. L'État n'a pas la capacité de pouvoir augmenter les salaires dans les entreprises.
Alors, absolument. Effectivement, c'est ce qu'a rappelé Bruno Le Maire lundi. À peine reconduit, il a convoqué, enfin, en tout cas, réuni et reçu les milieux économiques à Bercy. C'était lundi dernier. Et il disait, effectivement, on peut dépenser des dizaines de milliards, mais on ne peut pas non plus tout faire face à l'inflation et au pouvoir d'achat. Et il demande aux entreprises de mouiller un peu plus la chemise. Il dit, le travail doit mieux payer. Est-ce que pour vous, vous qui êtes au contact de beaucoup d'entreprises dans le cadre de cette mission sur l'intéressement et la participation, vous jugez que beaucoup d'entreprises ne jouent pas le jeu du pouvoir d'achat ?
Non, je ne crois pas que les entreprises ne jouent pas le jeu. Maintenant, on peut parler du partage de la valeur et faire en sorte qu'il y ait davantage de partage de valeur. C'est ce que j'exprimais au travers de ce dividende salarié. Mais dans la situation actuelle, on a une forme de paradoxe. On a une forme de paradoxe parce que on va avoir la publication des résultats 2021 et globalement, ils sont plutôt excellents quand on regarde les grandes entreprises. Et il va y avoir, ce qui est tout à fait logique et tout à fait souhaitable, des versements de dividendes importants. Les négociations annuelles se sont déroulées généralement entre le mois de janvier et le mois d'avril, donc cette période est terminée. Et c'est au moment où il y a une forme de renversement de tendance, où les prévisions annoncées à la fois par la Banque de France, à la fois dans différents secteurs économiques, qui montrent qu'il va y avoir une dynamique de croissance qui va s'affaiblir avec une crise de pouvoir d'achat. Et donc les entreprises ne pourront utiliser que des dispositifs provisoires si elles ont la capacité de pouvoir, on va dire, compenser cette inflation en donnant une prime aux collaborateurs. Et donc, je pense que le discours en ce moment est plus sur des mécanismes, on va dire, autour de la prime pouvoir d'achat, autour de primes qui pourraient être données, que d'avoir une négociation à porter sur les salaires dont on sait que l'avenir est incertain. Vous avez une ETI qui n'a pas en capacité, qui n'a pas aujourd'hui une capacité de production totale, parce qu'elle n'a pas de matière première, parce qu'elle a des difficultés de recrutement, et que la situation géopolitique se tend avec une crise énergétique, eh bien, ça n'incite pas l'entreprise à, un, poursuivre ses investissements, deux, à embarquer ses salariés avec des rémunérations importantes. En revanche, si elle a la capacité, compte tenu des bons résultats qu'elle a pu avoir, si elle souhaite motiver, recruter, fidéliser ses collaborateurs, elle aura plutôt tendance à mettre en place des dispositifs de primes type PEPA qui sont intermédiaires et qui lui permettront de voir venir. Ce sont des primes qui pourront monter sur des, on va dire, sur à peu près 6 000 euros, donc c'est tout à fait conséquent. Et voilà la situation un peu paradoxale dans laquelle on est. Je comprends que beaucoup d'entreprises ont été aidées pendant la crise Covid. D'abord, ces entreprises remboursent les PGE, remboursent les charges qui n'ont pas été payées. Mais ces entreprises, elles ont maintenu l'emploi, c'est ce qui était le plus important.
Alors la prime PEPA, je précise, c'est le nom officiel et juridique de la prime Macron. Avant de revenir sur cette question des primes justes, indépendamment de la conjoncture, enfin on ne peut jamais évidemment dissocier celle de la conjoncture, mais pour vous Thibault Langsade, est-ce que les salaires sont trop bas en France? Parce qu'avant la crise, Bruno Le Maire, c'était début 2020, et il était très mal vu des chefs de petites entreprises, disait les salaires sont trop bas en France, il faut que vous augmentiez les salaires. Est-ce que vous jugez que les salaires sont trop faibles en France?
Mais en une forme de paradoxe, c'est que oui, c'est compliqué en France de vivre avec un SMIC. Mais paradoxalement, le coût de ce SMIC par rapport aux autres pays européens est très élevé compte tenu de la pression que nous avons sur les contributions patronales, sociales et également les impôts. Donc il y a une forme de paradoxe qui fait que le travail coûte cher et rémunère relativement mal. Alors après, vous vivez évidemment avec un SMIC mieux en province qu'à Paris, compte tenu du fait que le coût de la vie dans zone urbaine est plus élevé. Et donc, il y a une forme de paradoxe où on a des difficultés à vivre avec la rémunération que l'on peut donner, notamment sur les basses rémunérations en entreprise. Toutefois, ce sont des rémunérations qui coûtent cher à l'entreprise si on se compare par rapport à l'Allemagne, par rapport à l'Angleterre, par rapport à l'Italie. Et donc, dans cette situation actuelle, augmenter les salaires, quelque chose que l'on peut espérer si les entreprises se développent, on peut espérer, on va dire, maintenir de la croissance. Toutefois, dans les perspectives actuelles, hein, celles que vous commentez régulièrement dans vos journaux, l'actualité, et voilà, on voit bien qu'au début de l'année, on était sur à peu près 4 points de croissance. Aujourd'hui, on est revenu à peu près 1,8, qui est quasiment le niveau de croissance que l'on avait avant la crise Covid.
Ah oui, non, mais on est même à zéro hein, depuis le début de l'année. Zéro de croissance au premier trimestre. Alors, et 0,25 espéré au deuxième.
On voit bien que ces perspectives ne vont pas inciter les entreprises à augmenter les rémunérations. Non pas qu'elles vont avoir des logiques prudentes. Alors, il est vrai qu'au regard des résultats qu'elles vont verser au titre de 2021, c'est là où on peut venir sur un sujet qui est le meilleur partage de la valeur. Oui. Quand les actionnaires ont des rémunérations significatives au titre des dividendes versés, on peut maintenant, dans un capitalisme un peu rénové, s'associer, enfin, espérer qu'on ait un meilleur partage de la valeur pour les collaborateurs.
Oui, mais alors, Thibault Langsade, justement, si on ne peut pas augmenter les salaires, on verse des primes, de la participation, de l'intéressement et effectivement de la prime Macron qui va être triplée. C'était ça aussi une des promesses de campagne d'Emmanuel Macron. Sauf que, vous le savez mieux que moi, ça ne marche pas, ces dispositifs. Pourquoi ? Pourquoi est-ce que les entreprises versent aussi peu d'intéressement, de participation ou même de primes Macron ? Aujourd'hui, elle peut aller de 1 000 à 2 000 euros, mais dans les faits, il n'y a que le CAC 40 qui verse des primes pareilles. Dans les TPE, PME, c'est 100, 200 euros. On monte jamais aussi haut. Pourquoi est-ce qu'on verse aussi peu de primes en France ?
Alors, il faut quand même regarder avec attention. Aujourd'hui, l'intéressement, la participation et ce qu'on appelle l'abondement, ce qui est versé par les entreprises en plus, on va dire, de la participation, de l'intéressement, ça représente à peu près 21 milliards au titre de l'année 2020. On n'a pas encore les chiffres, évidemment, de 2021. 20 milliards, quand on compare cela aux dividendes versés, qui représentent pour l'année 2020 à peu près 65 milliards, c'est une somme extrêmement importante. Donc, on ne peut pas dire que la redistribution ne soit pas faite. En revanche, vous avez tout à fait raison, elle s'exerce essentiellement dans les grandes entreprises, compte tenu du fait qu'elles ont des leviers plus forts. Et ce qui a été mis en place depuis la loi Pacte, c'est-à-dire la suppression du forfait social pour les entreprises de moins de 250 salariés pour l'intéressement, et puis la suppression du forfait social pour la participation pour les entreprises de moins de 50, eh bien, n'a pas décollé. Alors, elle n'a pas décollé pour différentes raisons. C'est que ça reste encore des dispositifs contraignants, encore un peu complexes. Il faut négocier un accord, il faut le déposer à l'inspection du travail. Il faut s'assurer que les URSSAF soient d'accord sur cet accord. Donc, ça représente encore un processus que l'on peut simplifier dans, je l'espère, les futures lois. Ce sont également, on va dire, des dispositifs qui, autour de la participation, sont relativement peu utilisés dans les entreprises parce que la formule est trop complexe. Elle ne permet pas à un chef d'entreprise, au travers d'un accord dérogatoire, comme ce, compte tenu du fait que ce n'est pas obligatoire pour les moins de 50, d'estimer pleinement ce que cela peut représenter. Et là, je pense qu'on peut aller sur une formule de participation qui est un pourcentage du bénéfice net fiscal de l'entreprise, qui permet au chef d'entreprise de bien comprendre, on va dire, là où il peut aller. Enfin, vous avez quand même pas mal d'entreprises, c'est ça qu'il faut regarder, et c'est un peu l'esprit du président de la République sur le dividende salarié, qui n'exercent pas de réciprocité. Une grande majorité des entreprises jouent le jeu de la réciprocité. On a des dividendes, on verse des dividendes, eh bien on verse de la participation, de l'intéressement aux collaborateurs. En revanche, dans les petites et moyennes, cette réciprocité n'existe pas, compte tenu du fait d'abord que la participation et l'intéressement a été faiblement développé, alors qu'elle est fiscalement intéressante, et qu'ensuite, il y a une forme de tension autour de cette notion de dividende dans les TPE-PME, parce que c'est bien souvent une partie du salaire du dirigeant. Et donc, il reste prudent à reverser au travers de ces instruments. Mais voilà, je pense qu'il y a plein de pistes qui sont sous la table, qui permettent de simplifier, de renforcer les formules. Et puis, voilà, on a aussi des entreprises qui ne jouent pas le jeu. Quand vous avez des grandes entreprises qui, on va dire, font reconnaître leur chiffre d'affaires, pour ne pas dire en Irlande ou dans d'autres pays européens, eh bien, ça diminue d'autant le résultat de l'entreprise. Par conséquent, la participation diminue. Vous avez des entreprises qui sont détenues par des capitaux étrangers, qui, au travers des management fees, au travers d'une structuration de leur holding, eh bien, diminuent le résultat. Et ce résultat, eh bien, si la participation est basée dessus, eh bien, il n'y aura pas de participation. Donc, il faut revoir dans un capitalisme un peu renouveler les règles du jeu. On voit que pour les TPE-PME, il faut continuer à simplifier. Ouais. Beaucoup de choses ont été faites. Il faut quand même saluer l'effort du gouvernement à supprimer le forfait social, ce qui représente au passage quelques milliards. Et puis sur les grandes entreprises, si on veut davantage utiliser, en tout cas les entreprises de taille intermédiaire, il y a la suppression du forfait social sur l'intéressement et la participation qui aussi sera extrêmement significatif.
Et donc, je le disais, votre idée de dividende salarié a été reprise par Emmanuel Macron pour son deuxième quinquennat. C'est-à-dire que très concrètement, ça va être voté et gravé dans le marbre de la loi, cette obligation pour les entreprises qui versent des dividendes de verser aussi une partie des résultats via de l'intéressement de la participation. Ça va être une obligation légale ?
Pour le moment, le projet de loi est encore en phase d'élaboration. Il y a des phases de concertation, de consultation des partenaires sociaux. Moi, ce que je comprends dans l'idée du président de la République, c'est qu'il sera compliqué pour une entreprise de ne pas verser ce qu'on appelle, ce qu'il a exprimé du dividende salarié, si il y a du dividende qui a été versé. Ce dividende salarié s'exprime au travers de l'intéressement ou de la participation. Maintenant, il pérennise la prime PEPA. Et cette prime PEPA est dans le panier, on va dire, du dividende salarié voulu par le président de la République. Donc on voit bien qu'il va falloir maintenant cerner les dispositifs, parce que cette règle de réciprocité n'est pas simple à mettre en place, pour les raisons que je vous ai évoquées tout à l'heure. Et donc, il va y avoir un projet de loi qui, à la fois, répondra à l'immédiateté de libérer, on va dire, cette prime exceptionnelle du pouvoir d'achat, dite prime Macron, qui permettra de monter jusqu'à 6 000 euros pour les entreprises qui auront signé un accord d'intéressement et de participation, sinon il sera ramené à 3 000 euros. Ouais. Et puis quant aux modalités, on va dire, du dividende salarié, ça nécessitera probablement davantage de discussions pour bien cerner les problématiques liées à cette réciprocité sur les dividendes.
Toute dernière question de Thibault Langsade, puisqu'il nous reste moins d'une minute. Les syndicats sont quand même très méfiants, voire critiques, de toutes vos idées, parce qu'ils disent que ces primes, à force, elles remplacent les hausses de salaire, en fait. Et ça, effectivement, évidemment, une prime, c'est toujours mieux que rien, mais petit à petit, ça se substitue à des hausses de salaire, et donc c'est mauvais pour les salariés.
Oui, mais il faut répondre à l'immédiateté et au pouvoir d'achat des Français. Et donc, les entreprises, aujourd'hui, elles ne seront pas en capacité de modifier sensiblement leur masse salariale compte tenu de la situation économique, géopolitique, énergétique. Et donc, si on veut répondre dans l'immédiateté, c'est évidemment la prime exceptionnelle pouvoir d'achat qui sera votée. L'autre point, c'est que pour un meilleur partage de la valeur, quand l'entreprise gagne davantage, il faut qu'il y ait une meilleure association. Et cette association, ce n'est pas une cannibalisation sur les salaires, c'est tout simplement un apport en industrie que les salariés, que les collaborateurs attendent dans un capitalisme rénové.
Merci beaucoup Thibault Langsade d'avoir été avec nous en direct en ce jeudi de l'Ascension qui plus est dans le grand journal de l'Écho, et on va suivre évidemment de très près l'évolution de toutes vos propositions, simplification, l'intéressement, de la participation, de l'actionnariat salarié et puis mise en place du fameux dividende salarié que vous avez proposé à Emmanuel Macron. Votre interview, je le rappelle, est à retrouver en direct en ligne sur notre site internet, réseaux sociaux et podcast, bientôt 19h30 sur BFM Business. Dans un instant, le rappel de l'actualité avec Claire Sergent et la dernière partie du grand journal à suivre après la pub. À tout de suite.
BFM Business, le grand journal de l'Écho, Thomas Asportas.
Dernière partie du Grand Journal de l'Écho et on va se pencher sur cette réunion très tôt demain matin à Matignon à 8h30 très précisément. Elisabeth Borne réunit son gouvernement pour définir les feuilles de route des différents ministères de son gouvernement et partager, je cite, avec eux la nouvelle méthode gouvernementale. Bonsoir Anne-Charlène Bézina.
Bonsoir.
Merci d'être avec nous ce soir sur le plateau du Grand Journal. Vous êtes constitutionnaliste, maître de conférence à l'Université de Rouen et à Sciences Po Paris. Merci d'être là. Et avec vous, Franck Morel, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes avocat associé chez Flichy Granger Avocat et ancien conseiller social du Premier ministre Édouard Philippe. Merci à tous les deux d'être avec moi ce soir en plateau. Je commence avec vous, Franck Morel. Vous connaissez évidemment la machine de l'intérieur très bien, puisque vous étiez à Matignon, je le disais. À quoi ça sert ce genre de réunion? C'est quoi la différence par rapport à un conseil des ministres qui s'est tenu il y a 4 jours à l'Élysée?
Ça sert à mobiliser les différents ministres, justement, sur un certain nombre d'objectifs qui sont posés par la première ministre. Et puis, ça sert à commencer à esquisser un certain nombre de pistes entre les différents ministres au regard, je dirais, des priorités qui vont venir chronologiquement les premières dans le temps. On va avoir très rapidement un projet de loi sur le pouvoir d'achat,
tout à fait,
par exemple, et déjà un certain nombre de questions sont posées sur le contenu de ce projet de loi, avec un enjeu un petit peu compliqué, parce qu'en matière de pouvoir d'achat, je peux en parler d'expérience, on n'en fait jamais assez.
Oui.
Nos concitoyens ont des attentes extrêmement fortes sur le sujet. J'ai souvenir, par exemple, au début du quinquennat de Nicolas Sarkozy, après la loi TEPA d'août 2007, il avait fallu une seconde loi en février 2008 sur le pouvoir d'achat, précisément parce que les effets de la loi TEPA auprès de l'opinion publique n'étaient pas encore ressentis comme étant suffisants.
Ouais.
Donc c'est un sujet extrêmement ingrat par certains côtés, mais sur lequel le gouvernement est très largement attendu. Alors, on a quelques idées d'éléments de contenu. On sait qu'il y aura un paquet autour des questions de bouclier tarifaire, de chèque alimentation, etc. On sait, et Thibault Langsade en a dit quelques mots tout à l'heure, qu'il y aura un paquet, et à titre personnel, je pense que c'est quelque chose d'extrêmement important sur les questions d'intéressement et de participation, avec le fameux dividende salarié.
Tout à fait, ouais.
Il va falloir travailler, arbitrer sur toutes ces questions. Il va falloir aussi organiser le travail gouvernemental.
Ouais.
Quel sera le ministre chef de file de ce projet de loi? On imagine que ce devrait être Bruno Le Maire, puisque Bruno Le Maire avait été chef de file sur la loi Pacte, qui est un peu...
C'est lui qui a réuni tous les acteurs économiques lundi.
Absolument, voilà.
Ce serait logique.
Et puis, comment va être organisé le travail pour aller au bout des arbitrages sur le contenu de ce projet de loi?
Ouais.
Alors, il y a eu quelques flottements sur le fait de savoir si le projet de loi devait être présenté avant les élections législatives
ou
après les élections législatives. Il semble que finalement, ce devrait être après.
Tout à fait.
Mais ensuite, il y aura effectivement tous les arbitrages sur le contenu.
Voilà. Et alors, avant de revenir sur ce ressenti effectivement des Français qui est très négatif sur le pouvoir d'achat, malgré les milliards, et même maintenant ça se compte en dizaines de milliards, déversés par l'État pour soulager un peu la peine des Français, juste une question encore une fois, vous qui étiez à l'intérieur, est-ce que ce type de réunion, ça sert aussi au Premier ministre à asseoir son autorité?
Ah, évidemment.
Ouais. Édouard Philippe, par exemple, il avait dû passer par là pour s'imposer auprès de son équipe.
Je dirais, ça fait partie de l'arsenal des leviers qui peuvent être actionnés par le Premier ministre, notamment pour montrer qu'il est à la manœuvre, pour insuffler une certaine dynamique et puis pour entretenir un échange avec ses ministres. Donc évidemment, bien évidemment. Alors asseoir, je ne sais pas si c'est le terme qui convient.
S'imposer.
En tout cas,
il n'y a pas si longtemps, elle était ministre et pas première ministre.
Montrer qu'elle est là. Et puis montrer qu'elle fait le job, entre guillemets, c'est-à-dire qu'elle réunit les différents ministres et que c'est elle qui a la baguette de chef d'orchestre.
Oui.
C'est-à-dire, c'est elle qui donne le « là » entre les différentes questions, les différentes priorités aussi, parce que on parle de la loi pouvoir d'achat, et là, c'est simple, puisque c'est le premier projet de loi qui va être sur la table. Mais après, il y aura un certain nombre d'arbitrages à faire en termes de file d'attente. Dans le cadre, et vous ne me démentirez, excusez-moi, sans doute pas, dans le cadre d'un Parlement qui va être sans doute très embouteillé, avec un ordre du jour parlementaire qui sera sans doute, comme ça a été le cas lors des dernières années, extrêmement chargé, il faudra faire des choix. Et donc, il faudra présenter certains textes avant d'autres, et parfois bien avant d'autres. Et donc, faire des choix, Ben, ça veut dire, là aussi, au regard des demandes des différents ministres, montrer, la Première ministre doit montrer qu'elle va jouer pleinement son rôle et qu'elle prendra toute sa part dans les arbitrages autour des priorités. Alors, on a quelques idées des priorités. Hein. J'ai parlé du pouvoir d'achat. Il y a les questions d'écologie.
Bien sûr.
Il y a les questions de santé. Il y a les questions d'éducation. Il y aura, bien évidemment, la réforme des retraites, vraisemblablement à l'automne, où la méthode sera extrêmement importante.
Tout à fait, on va en parler.
Primordiale. Ouais, avec quand même une caractéristique sur la réforme des retraites qui me paraît essentielle par rapport à ce qu'on a pu connaître lors de précédentes réformes, c'est que on sait très clairement quel est le cap. On sait très clairement ce que l'on veut faire dans cette réforme. C'est-à-dire, on sait très clairement qu'on veut actionner un levier qui est le levier de l'âge.
Ouais. Hein.
Alors, jusqu'à quel point veut-on l'actionner entre les deux tours des présidentielles?
Oui, c'est pas encore clair sur les curseurs.
Le Premier ministre, effectivement, le président.
Le président.
Ouais. Effectivement, a, je dirais, laissé poindre une possibilité d'avoir une clause de revoyure, d'avoir discussion sur le rythme de passage aux 64 puis aux 65 ans. Mais, effectivement, on sait quand même que c'est ça le cap. Et ça, c'est un atout indispensable. On a un second atout. Et malgré le fait que la campagne électorale a pu être qualifiée d'évanescente par certains côtés, et l'est encore d'ailleurs pour la campagne législative, c'est que on ne prend pas nos concitoyens en traître, à savoir que cette question a été très clairement mise sur la table, et elle a été avant les élections. Les Françaises et les Français ont voté en toute connaissance de cause, et vont le faire encore aux législatives. Et ça, c'est deux atouts essentiels pour mener une réforme difficile.
Et pourtant, Anne-Charlène Bézina, tout ça n'empêche pas les Français, l'opinion, d'être très critique envers le nouveau gouvernement. C'est ce sondage Elabe paru mardi dernier pour nos confrères de BFM TV qui fait beaucoup causer. 58% des Français disent qu'ils sont mécontents de ce gouvernement. 71% d'entre eux même jugent qu'il sera incapable d'améliorer leur pouvoir d'achat. Pourquoi est-ce que d'entrée de jeu, les Français sont aussi négatifs envers ce nouveau gouvernement?
Il y a peut-être une première chose à dire, c'est que c'est un gouvernement de profonde reconduction, quand même, à certains égards. On nous avait dit, notamment dans l'investiture, un nouveau peuple a élu un nouveau président pour un nouveau mandat. On a une première ministre qui faisait déjà partie de l'équipe gouvernementale. Je crois qu'on avait chiffré à 12 à 15 les ministres faisant déjà partie de l'ancienne équipe. Donc, peut-être qu'en termes de vente, ce gouvernement n'est pas la première chose à laquelle les Français s'attendent en termes de surprise. C'est la première chose qu'on peut dire. Ensuite,
ils se sentent lésés quelque part, un peu trompés sur la marchandise.
Moi, j'ai
on vous promet du neuf et finalement on recycle du vieux.
Je crois qu'on a oublié aussi qu'on était dans un deuxième mandat. Et c'est vrai que c'est un président qui se représente. Donc on est dans une reconduction. Et c'est normal, il y a la fidélité aux personnes qui vous ont soutenu, il y a les recompositions à attendre des personnes qui vont vous soutenir. Donc il y avait, c'est peut-être pour ça aussi que la composition de ce gouvernement a mis tant de temps, c'est qu'il y avait beaucoup de paramètres à prendre en compte.
Ouais.
Les femmes, les hommes, la droite, la gauche, les anciens, les nouveaux. Et donc, il y a en effet beaucoup de contraintes qui pesaient sur la composition de ce gouvernement. Et donc, c'est un gouvernement qui, pour moi, est un gouvernement du politique, où on a renoué avec le politique comme un métier, finalement, puisqu'avant, on nous avait vendu un petit peu la société civile comme étant ce qu'il y avait de plus important pour le gouvernement. Aujourd'hui, on renoue avec le politique et on est dans un gouvernement de reconduction et de contraintes. Donc, c'est peut-être pour ça aussi que au départ, les Français ne peuvent pas, j'ai envie de dire, y être attachés de prime abord.
Ouais.
Il faut dire une chose, c'est quand même aussi un gouvernement de poche et un gouvernement de test, en quelque sorte. Puisque, déjà, il y a première chose, pas, à mon avis, l'intégralité du gouvernement qui est composé. On ajoute souvent les secrétariats d'État plutôt à la suite des législatives,
bien sûr,
parce que bon, là, on est dans un gouvernement
poche, on a déjà 28 ministres. Hein.
Oui,
l'anti-gouvernement resserré aussi qu'avait vendu Emmanuel Macron.
On est allé jusqu'à 43, 44, 48, hein, donc bon, on est quand même encore dans une moyenne basse, disons-le. Il y a ça, il y a l'idée qu'on n'a pas encore tout le monde, et puis il y a aussi cette jurisprudence qui est un peu coutumière sous la Ve République, qui consiste à dire qu'on ne garde pas les ministres qui n'auraient pas obtenu un poste de député, sachant que, précisément, là, il y en a beaucoup qui sont...
Ben oui, il y en a 15 sur 28. Voilà. 15, c'est énorme.
Une bonne quinzaine, ce qui signifie qu'il
y a 5 ans, c'était 6 ministres. Là, il y en a 15.
On ne peut même pas savoir, en fait, en réalité, si ces gens-là resteront. Donc, c'est pour ça aussi qu'il y a des incertitudes. Peut-être que les Français ressentent aussi ce flottement. Il y a une période de réserve qui s'applique depuis lundi, qui est normale, hein, il faut le dire, qui est coutumière, qui est importante, parce qu'elle correspond tout simplement à la campagne des législatives. Hein. Ce n'est pas une période de réserve juste pour la réserve. C'est une période de réserve pour pouvoir discuter tranquillement des orientations de la politique nouvelle qui serait menée par le nouveau Parlement que nous allons élire dans quelques semaines. Donc, c'est des choses qui font aussi qu'on n'est pas forcément dans quelque chose d'attendu par les Français. Et c'est peut-être pour ça, à mon avis, qu'il y a ce manque de connexion.
Tout le monde est un peu en stand-by, là ?
Tout le monde
c'est
est
ce que disent d'ailleurs les partenaires sociaux, hein, les milieux économiques disent bon, on avance, mais il y a beaucoup de points d'interrogation.
Il y a des choses qui peuvent être faites quand même, hein, notamment, en fait, les Français ne maîtrisent pas forcément ce point-là, c'est qu'un projet de loi n'arrive pas directement devant le Parlement.
Hein,
bien au contraire, il est préparé pendant des semaines, des mois, en interne, c'est-à-dire au sein des administrations que les ministres, finalement, ne font que chapeauter, hein, on va dire, présider. Et donc, ces administrations travaillent, rédigent, le secrétariat général du gouvernement aide à la rédaction, et donc, tous ces moments-là peuvent être actionnés dès maintenant. Donc, on nous dit, mais le gouvernement ne travaille pas, bien sûr que si, on ne peut pas communiquer politiquement dans les médias sur ces questions, mais les ministres, dans leurs administrations, peuvent commencer à pré-rédiger des textes, et je pense que c'est ce qui est largement le cas ce qui est en tout cas en train d'être fait pour ce fameux projet de loi de finances rectificative dont on nous parle, qui contiendra le paquet pouvoir d'achat avec les différents chèques, etc., sur ces questions.
Franck Morel, on garde à peu près la même équipe et on recommence. Oui. Mais par contre, ce que promet Emmanuel Macron, c'est une nouvelle méthode.
Oui.
Mais ça, c'est possible? On garde les mêmes hommes et on fait différemment?
Alors, nouvelle méthode. Je ne sais pas ce que c'est qu'une nouvelle méthode.
Ah bah c'est lui qui l'a dit.
Bien sûr.
C'est lui qui l'a dit. C'est le président de la République.
Oui, mais il n'a jamais dit ce que c'était. Il a dit la nouvelle méthode.
Il a dit si avec vous, plus associatif, plus constructif, plus participatif. Effectivement, on a du mal à comprendre ce que ça veut dire concrètement.
C'est une figure de style assez récurrente, le fait de mettre en avant une nouvelle méthode. Très bien, je ne vais critiquer le fait de vouloir faire quelque chose de nouveau. On a toujours besoin de nouveautés. Je pense que ce qui est important, ce n'est pas le caractère nouveau ou pas nouveau de la méthode. C'est le fait que la méthode soit tout simplement efficace. C'est quoi une méthode efficace? Une méthode efficace, c'est une méthode qui permet tout à la fois d'atteindre l'objectif qu'on s'est fixé, c'est-à-dire de réaliser la réforme que l'on entend réaliser et de le faire dans les meilleures conditions possibles, c'est-à-dire de le faire en essayant de faire en sorte que la situation de notre pays à l'issue de ce processus de réforme soit une situation qui reste, on va dire, enviable et qui reste, je dirais, gouvernable par rapport à certaines périodes qu'on a pu connaître.
Justement, Franck Morel, vous jugez nécessaire le fait de changer de méthode? On ne peut plus gouverner le pays comme vous l'aviez gouverné avec Édouard Philippe ou comme on l'a fait récemment avec Jean Castex.
Il faut toujours
changer le logiciel. Là, on ne peut pas continuer comme on l'a fait il y a 5 ans.
Il faut à la fois toujours se renouveler, c'est-à-dire il faut à la fois toujours avoir l'humilité de se poser des questions, de se demander si ce qu'on a fait a été bien fait ou pas, avoir un regard critique sur ce qu'on a fait, et ça, c'est très sain, et ça, il faut le faire. Mais, dans le même temps, il n'y a pas 36 000 solutions, il n'y a pas 36 000 moyens, je dirais, d'organiser un processus de concertation et d'organiser la conception d'une réforme, d'un projet de loi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, comme vous l'avez dit, vous allez d'abord avoir une phase en chambre, entre guillemets, c'est-à-dire une phase rédaction où les administrations, les cabinets ministériels, les différents ministres vont échanger sur les différentes options possibles, sur ce qui est envisageable, ce que ça coûte, les avantages, les inconvénients, etc. Et puis vous allez, soit parallèlement, soit après, en fonction des thématiques, avoir une phase de concertation, plus ou moins longue. Alors, la concertation, la difficulté de la concertation, c'est qu'il faut que ça soit consistant, mais il ne faut pas non plus se noyer, se perdre dans une concertation qui va durer éternellement et qui va faire perdre de vue l'objectif de la réforme. Il faut le bon dosage. Le bon dosage, et puis, autre aspect de la concertation, il faut que ça soit à la fois une vraie concertation, c'est-à-dire que le résultat des discussions ne soit pas le même que ce qu'il aurait été s'il n'y avait pas eu les discussions, mais en même temps, en gardant un certain nombre de lignes jaunes ou rouges, je ne sais pas la couleur, que vous ne souhaitez pas franchir. Et ça, ce n'est pas toujours évident. Alors moi, j'ai souvenir que nous y étions, auprès d'Édouard Philippe, assez bien parvenus avec les ordonnances de septembre 2017, les ordonnances travail, parce qu'on avait une feuille de route qui était claire, parce qu'on avait un objectif qui était clair, mais que nous avions eu à l'époque le souci de faire en sorte que malgré cette feuille de route claire, eh bien le produit de sortie, entre guillemets, le texte de sortie, ne soit pas tout à fait celui qu'il était et qu'il aurait été s'il n'y avait pas eu de concertation. Et ça a été le cas, et notamment Jean-Claude Mailly, à l'époque, l'avait souligné.
Oui, secrétaire général de Force Ouvrière. Effectivement, ça avait été remarqué, le fait que FO se rallie à votre texte. Anne-Charlène Bézina, il nous reste 2 minutes. Cette réunion de crise, bon, on a bien compris les enjeux. Enfin, justement, pardon, lapsus, réunion de demain, on a compris les enjeux, mais c'est peut-être aussi une réunion de crise, non? Avec une économie française, là, qui est peut-être à un point de bascule. On a une croissance qui est à zéro. Les Français consomment moins et Hier, ce chiffre est tombé, alors il peut paraître anecdotique, 9300 demandeurs d'emploi sans aucune activité en plus. C'est peut-être la marge d'erreur, mais c'est la première fois que ça arrive depuis un an. Est-ce que pour vous, le gouvernement commence à vraiment s'inquiéter pour l'économie ?
Alors, je pense qu'il est temps, si ça n'est pas le cas, parce que ce n'est pas un gouvernement de crise ou une réunion de crise, c'est une France de crise en ce moment. De toute façon, on est en crise pandémique, on est en crise,
moi, je parle de crise économique,
on est en crise internationale, et une guerre n'a jamais produit ses effets dans les trois premiers mois. À mon avis, on va en avoir pour des années. Donc, évidemment, de toute façon, en matière économique, ce sont des cycles, donc ce sont des choses qui se sentent sur le long terme, ce sont des vagues. Donc, bien sûr, c'est une réunion de crise. La réunion de demain, elle a aussi peut-être un autre objectif. Le Premier ministre qui arrive en poste a généralement le souci de publier ce qu'on appelle la circulaire sur les méthodes gouvernementales. C'est ce qu'a fait Alain Juppé, ce qu'a fait Michel Rocard pour les plus connus, qui sont des circulaires sur la manière dont va travailler le gouvernement. Et peut-être que cette nouvelle méthode se trouvera dans cette circulaire. Alors, un mot sur la nouvelle méthode et la concertation. Je crois qu'on a tendance en France, notamment lorsqu'on parle de démocratie participative, lorsqu'on essaye de plus intégrer le citoyen à la rédaction, à vendre des choses qui ne sont pas la réalité. Parce que il y a un travail technique, il y a un travail juridique qui est fait par les administrations. Et donc, quand on consulte, on a tendance à consulter soit sur des éléments de détail, soit ensuite à recentraliser la décision. Et donc, on déçoit tout le monde. Alors, attention à cette nouvelle méthode, c'est-à-dire consulter, encore une fois, on l'a dit, avec le bon dosage et sur la vérité. C'est-à-dire que si on consulte, mais qu'on ne s'engage pas sur le résultat, c'est comme si on n'avait pas consulté et on crée deux fois plus de mécontentement. Donc, c'est la grande question. La grande question, c'est est-ce que cette nouvelle méthode, c'est uniquement de l'incarnation politique, et dans ce cas-là, c'est vrai qu'on en a bien besoin, parce qu'il faut arriver à reséduire les Français et à leur redonner confiance, ou est-ce que cette nouvelle méthode, c'est une nouvelle forme de concertation, et dans ce cas-là, attention, il faut des objectifs clairs, et il faut surtout des engagements sur les résultats.
Et ce que vous dites, ça fait beaucoup penser, ce sera le mot de la fin, à la Convention citoyenne pour le climat, où justement, c'était un peu le prototype de cette consultation, de cette co-construction, et tout le monde a été déçu, finalement, les citoyens en premier, les Français et les acteurs économiques. Donc, ça va
et
être un sacré challenge.
Et c'est souvent le cas, notamment les Grenelles, de l'environnement, de ondes, etc., qui avaient pu décevoir.
À voir, on va voir ce que donnera cette réunion demain, et puis cette circulaire aussi, c'est bien, parce qu'avec vous, on est dans les arcanes de l'exercice du pouvoir, cette circulaire sur la concertation gouvernementale et la nouvelle méthode. Merci beaucoup à tous les deux d'avoir été là, Anne-Charlène Bézina, constitutionnaliste, maître de conférence à Rouen et à Sciences Po Paris, et Franck Morel, avocat spécialiste du droit du travail et ancien conseiller social d'Edouard Philippe. Merci à tous les deux, et je rappelle que votre débat et le grand journal de l'Écho est à retrouver en ligne sur les réseaux sociaux et en podcast, bientôt 20h sur BFM Business. Dans un instant, toute l'actu de la tech avec Tech & Co. Très bonne soirée à toutes et à tous sur BFM Business.
Le grand journal de l'Écho sur BFM Business.